You're with SBS Radio.
Bonjour, je suis en ligne avec Franck Voitier, Managing Director de Neoen Australia. Franck, bonjour.
Bonjour Mathilde.
Alors, on peut déjà peut-être dire aux auditeurs ce qu'il en est exactement de Neoen.
Alors, Neoen est une entreprise française qui a été créée en 2008, qui est aujourd'hui détenue par Jacques Vera, un entrepreneur français et un fonds d'investissement français qui s'appelle Omnes Capital, ainsi que BPI France, donc un peu franco-français. Et c'est un producteur d'électricité renouvelable. Neoen développe des projets éoliens, solaires et biomasse dans plus de 13 pays dans le monde et construit ses centrales, les fermes éoliennes, et les finance et les opère. Voilà. Notre métier, c'est de produire et de vendre de l'électricité renouvelable.
Comment vous êtes retrouvé associé au projet de batterie géante d'Elon Musk dont on a beaucoup parlé, puisqu'il a réussi son pari? Il avait dit que cette batterie serait opérationnelle en 100 jours. Il a réussi.
Il faut savoir que Neoen est présent en Australie du Sud depuis 2014. On a racheté un projet de ferme éolienne cette année-là, et c'est un projet qu'on a développé, qu'on a continué à développer, et pour lequel on a gagné des appels d'offres avec le territoire de Canberra, avec la CT, qui nous ont permis de construire notre ferme éolienne, qui est une des plus grandes de l'État, qui comprend 99 turbines. Et puis, comme on suit de près ce qui se passe dans cet État et qui ont été touchés aussi par les conséquences du blackout l'an dernier, lorsque l'appel d'offres du gouvernement a été émis, nous avons souhaité nous positionner pour délivrer une batterie au gouvernement, puisque c'était l'objet de l'appel d'offres. Et je vous dirais qu'on a fait un petit peu ce qu'on fait avec tous nos projets. On a regardé quelles étaient nos capacités par rapport à la connexion au réseau électrique d'une batterie dans l'État, et on a évidemment utilisé notre site préexistant de Hansel, et puis on a regardé sur le marché quels étaient les fabricants, les fournisseurs de batteries, de technologies qui étaient capables d'abord de fournir cette quantité, 100 mégawatts, et dans un délai record, puisque le gouvernement souhaitait l'installation de cette batterie avant le 1er décembre, premier jour de l'été australien. Et évidemment, Tesla étant un leader, et nous a paru assez naturel d'essayer de faire affaire avec eux, et donc nous avons conclu un partenariat, Tesla fournissant la batterie, l'équipement, Neoen étant le propriétaire de la batterie et le développeur du projet. On a été choisi parmi 90 participants.
Est-ce que c'est le genre de projet qui a un impact mesurable, important sur une société comme la vôtre? Parce que je le rappelle, le projet, il a été très médiatisé.
Je pense qu'on est passé du statut de complet inconnu, ou en tout cas un petit peu connu pour les initiés dans le secteur et dans l'industrie, mais globalement le grand public ne sait pas ce qu'était Neoen, on ne savait pas ce qu'était Neoen, à un statut un tout petit peu plus célèbre du jour au lendemain, grâce effectivement à l'image de marque et à la notoriété du CEO de Tesla. Et alors c'est intéressant, c'est drôle, ça change pas fondamentalement la manière dont on développe nos affaires et dont on développe nos projets, mais c'est vrai que les gens, le nom Neoen est un petit peu plus connu aujourd'hui grâce à ce projet.
Vous représentez quoi dans le monde français des énergies renouvelables? Est-ce que vous êtes une exception? Est-ce que c'est finalement un domaine très innovant où ça bouge beaucoup? Racontez-nous.
Alors Neoen est le troisième acteur français, on va dire le premier indépendant en France, donc plutôt en France très connu. Dans le monde, on développe 1,3 gigawatt de projets, donc c'est assez conséquent. On a un objectif d'atteindre, de tripler de taille dans les trois ans. Je crois que la particularité de Neoen, c'est sa capacité à prendre des décisions et à investir dans des projets ou à développer des projets assez rapidement. L'Australie, pour Neoen, est un très grand territoire de jeu et aussi un endroit dans lequel on a aujourd'hui plus d'un tiers de nos actifs. Donc c'est un pays important pour nous. On a commencé ici en 2012 et nous en sommes à peu près 600 mégawatts d'actifs. On atteindra 1 giga l'année prochaine. Donc on a une particularité qui est de développer nos projets, mais aussi de rester le propriétaire et le gestionnaire de nos actifs pendant très longtemps.
Mais alors l'Australie, justement, pardon, je vous coupe, c'était pas une évidence parce que, alors en effet, vous l'avez dit, c'est un énorme marché, il y a beaucoup de possibilités, mais c'est aussi un pays qui reste extrêmement attaché au charbon et aux énergies fossiles, avec des politiques publiques qui sont pas nécessairement très en faveur des énergies renouvelables. On l'a encore vu récemment avec la reculade du gouvernement Turnbull sur justement l'investissement dans les énergies renouvelables. Est-ce que vous y croyez-vous à la transition énergétique en Australie ?
Je vais d'abord répondre par votre dernière question. Moi, j'y crois évidemment. Et je pense qu'il n'y a plus tellement à se poser la question d'y croire ou pas y croire. Elle est inévitable, la transition énergétique. Aujourd'hui, on est capable de construire des centrales, des générateurs d'électricité bien plus compétitifs, bien plus rapidement et bien plus fiables s'ils sont propres par rapport à des centrales charbon ou gaz. Pour vous raconter l'anecdote de notre démarrage en 2012, quand je suis venu faire un petit tour en Australie pour voir ce qu'on pouvait y faire, je suis revenu après un mois et j'avais rencontré une cinquantaine d'acteurs, d'entreprises et de personnalités du secteur public. Et je suis reparti à Paris avec une très bonne opinion de l'environnement et la manière dont on pouvait faire des affaires en Australie. Et j'ai recommandé à nos actionnaires d'investir dans ce pays en leur disant que la politique énergétique était assez fiable et prévisible, que le gouvernement au pouvoir, qui était celui de Julia Gillard, venait de déclarer la création de l'ARENA, l'agence de support du renouvelable, et du Clean Energy Finance Corporation, qui est une banque d'État qui supporterait aussi le développement du renouvelable. Il y avait un objectif ambitieux de développement du renouvelable. Et donc, on a investi dans ce pays, et Neoen et s'est installé ici en 2012. Moi, je suis arrivé un tout petit peu après, en 2013, et une semaine après, Tony Abbott a été élu. Et donc, c'est assez drôle parce que c'était complètement l'opposé. Tout ce qui avait été présenté, le business plan, nos espoirs venaient d'être douchés du jour au lendemain. Et ça a créé pour nous une opportunité. Il y a des gens qui se sont découragés, qui sont partis, et ces gens-là, on leur a racheté ce projet notamment. Et pour nous, ça a été le début du succès. Proposer le prix d'électricité le plus compétitif à l'époque pour une centrale éolienne au gouvernement de Canberra. Et donc, on a participé activement à la réduction du coût de production d'électricité en South Australia. Et on l'a fait de manière répétée sur chacun de nos projets. Et à chaque fois qu'on développe un projet, on s'attache à ce que le coût de l'électricité produit soit, si ce n'est le plus compétitif dans sa technologie et dans l'État à un moment donné, ou en tout cas parmi les plus compétitifs.
Et Dieu sait que le coût de l'électricité, c'est un sujet brûlant en Australie, et un mal chronique.
C'est un sujet brûlant, mais c'est aussi le résultat de 10 ans d'inaction et de mauvaise politique énergétique. Moi, je dis souvent, à qui veut l'entendre, mais il ne faut pas que je répète trop fort en anglais, mais que les gouvernements australiens n'ont eu ni vision, ni courage, et encore moins le dernier, en ce qui concerne la politique énergétique. Et sinon, je disais hier un article sur Malcolm Turnbull qui continue à croire que le charbon, c'est bien et c'est efficace, alors que tous les spécialistes et toutes les études qui sont un tout petit peu objectives confirment que d'abord le temps de développement d'une centrale à charbon, c'est plutôt entre 5 et 10 ans. Le coût de production est supérieur aujourd'hui à ce qui peut être fait avec n'importe quelle autre technologie renouvelable. Et là, et l'argument massue qui est de dire le renouvelable n'est pas fiable puisqu'on ne produit que quand il y a du soleil et du vent n'est pas complètement encore faux, mais est en train de devenir vraiment très très faux.
Grâce aux technologies de stockage qui se développent.
Exactement. Et je pense que Neoen est le meilleur exemple d'un opérateur qui a su allier le renouvelable pas cher et la technologie de stockage de manière à pouvoir répondre aux défis de l'intermittence.
Franck Voitier, je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie, Mathilde.
Et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.